Vous êtes sur les ondes de Sequoia 88.3 à Québec. C'est Voix de fait, l'émission du collectif Anarchiste la nuit, en compagnie de moi-même, Nicolas.
De Guillaume.
Jenny.
Faruko, qui est caché derrière les consoles et qui rush sur son ordinateur. Et cette semaine, on a plein d'affaires, en fait.
On a quelques nouvelles diverses, là. On va parler de front commun, de négo dans le secteur public. On va parler de quoi? On va parler de Taser et de quelques autres affaires, là.
Pour toi?
On va parler d'un tel employé de la mine Sigma de la mer qui manifeste pour être payé. Aussi, du nombre assez élevé de travailleurs qui ont perdu la vie cette année au Québec.
Et évidemment, surtout, on va avoir une entrevue avec une... Mon Dieu, je sais pas comment qu'on peut appeler ça. Une cellule de guérilla jardinière active dans Limoilou. Attends, on va mettre ça au pire. En fait, il y a une station-service qui est désaffectée dans Limoilou, qui appartient à Petro-Canada, au coin de la 3e avenue et de la 3e rue. Et puis depuis, mettons, le printemps, il y a des gens qui s'activent sur ce terrain-là. C'est comme toutes les stations-service désaffectées, là, de la garnotte avec des blocs de ciment autour pour être sûr que personne n'y aille, et des chaînes. Et donc, c'est ça, au printemps et au début de l'été, il y a des gens qui se sont un peu réappropriés les lieux et qui ont fait une espèce de jardin sauvage. Et c'était curieux, c'était intéressant, en fait, c'est sympathique. Et puis... il a fallu attendre jusqu'au 21 octobre pour que les services de renseignement de l'UCL trouvent c'était qui faisait ça, puis puissent les avoir en entrevue. Donc, voilà, c'est une entrevue exclusive à Sequoia qu'on va avoir dans un instant, si l'ordinateur peut rebooter.
Ça s'en vient.
Et ce qui vient avec ça, on a Justin.
Allô?
Ouais, Justin qui est un auxiliaire de la cellule de guérilla... qui est un auxiliaire de la cellule de guérilla de Limoilou. Guérilla jardinière, on s'entend, là, ils plantent des plantes, les gens, là. Ils font rien de dangereux. Qui nous a concocté un rap qui va nous faire live, on the spot, ici, tout à l'heure, après l'entrevue. Oui, et puis, voilà. Ceci dit, pour l'instant, comme la technologie est fomenté par des entreprises capitalistes qui n'aiment pas la guérilla jardinière et les groupes anarchistes qui font de la radio communautaire. On va enchaîner en fait tout de suite avec de l'actualité. Guillaume, tu nous as préparé des choses, toi, hein?
Ça commence raide, mais bon, je pensais pas y aller tout de suite, mais allons-y. On va commencer avec le taser, la question de ce magnifique pistolet électrique qu'on entend souvent parler ces derniers temps. En fait, il y a deux nouvelles qui ont retenu mon attention par rapport à ça, là. D'une part, en fin de semaine, il y avait une information comme quoi le gouvernement a déboursé jusqu'à maintenant environ 600 000 $ pour défendre la GRC. Pour que la GRC se défende tout en défendant le taser, là, mais comme surtout dans l'affaire du ressortissant polonais dont je ne me rappelle plus le nom exactement, qui était décédé dans le fond à Vancouver il y a quelques années, là, dans le fond, qui avait été...
Un an?
Ça fait juste un an, même ça faisait une couple d'années. Ouais. En tout cas,
ouais, écoute, plus qu'on vieillit, plus que ça passe.
Ouais, c'est ça. Mais bref, c'est ça. Là, donc, dans cette affaire-là, les policiers se défendent bec et ongles d'avoir bien agi et tout ça, et que le pistolet est absolument pas en cause, même s'ils l'ont taisé comme 5 fois.
Puis, ils se défendent bec et ongles d'avoir bien agi, c'est-à-dire qu'ils disent qu'ils se sont trompés ou... Ou ils disent « Non, non, on a bien agi. »
Non, on n'est pas en faute. Okay. C'est pas à cause qu'on l'a taisé qu'il est mort.
C'est pas ça, là, j'avais un choc, là.
Non, c'est pas moi qui l'ai défait non plus. Ça fait déjà 600 000 $ que le gouvernement met là-dedans, là, sans parler de ce que la compagnie a pu mettre, de ce que le service de police a pu mettre. Donc, pourquoi le gouvernement les défend? Est-ce que les organisations, est-ce que les syndicats de policiers sont pas capables de se défendre eux autres-mêmes? Est-ce que... tout plein de questions... autour de ça. Suite, un peu en lien avec ça, il y avait la coalition pour un moratoire sur le taser qui devient maintenant officiellement la coalition pour le retrait du taser. En fait, c'est suite au nouveau développement par rapport au pistolet électrique. Ben, en fait, c'est que depuis septembre dernier, la compagnie Taser elle-même recommande de ne pas viser la poitrine, en reconnaissant que cette arme pouvait entraîner un arrêt cardiaque.
Fait qu'on est rendu qu'il faut viser le gros orteil ou le pouce.
Exactement, c'est ça. Ou dans leur plein front, là, tu sais, quelque question que comme ça les gens se fassent une crise d'épilepsie, là. En tout cas, on sait jamais. Mais, bref.
Une crise d'épilepsie, c'est pas mortel, c'est bien traité, là.
OK, on en reparlera une autre fois. Mais c'est ça. Bref, la coalition qui demandait un moratoire demande aujourd'hui que ce soit complètement retiré, que ce soit plus utilisé par les corps de police. Entre autres aussi, il y a les affaires là, qui est arrivé ici même à Québec, lorsque les policiers ont utilisé un taser pour... contrôler un homme trisomique, dans le fond, qui était en crise. Donc, ce qui prouve, en fait, que c'est utilisé, genre, quand les policiers savent juste pas comment agir, comment s'occuper d'une situation, ben, ils utilisent ça, puis comme au diable les conséquences. Alors qu'on sait que ça en a d'autres conséquences.
Oui, surtout avec des gens qui ont des problèmes.
Qui ont des problèmes déjà, effectivement.
De connexion neuronale.
Mm-hmm. Effectivement. Fait que, c'est ça. C'est ce que la coalition demande et c'est ce qu'il faudrait effectivement qu'il arrive éventuellement.
C'est un sujet qui est très particulier, hein, parce que je sais pas si vous lisez les journaux, mais à Québec, il y a un bonhomme, un chroniqueur, qui, depuis 35 ans, envenime le débat public avec des conneries réactionnaires à répétition. C'est M. Jean-Jacques Sanson, le directeur de l'information au Journal de Québec. Il fait partie des gens qui demandent le retrait du taser. Okay. Parce que ça n'a pas de bon sens et que c'est trop dangereux et qu'il faut absolument trouver d'autres moyens et tout et tout. C'est encore il y a 10 jours à peu près, là, suite à l'incident dont tu parlais avec l'homme trisomique qui était en centre finalement, puis qu'il y avait une intervention policière, l'utilisation du taser. Mais il est encore sorti sur cette question-là. Là, bon, dans ce cas-là, il a dit il a à la fois pointé le taser et la désince. Et les problèmes que ça amène, c'est sûr qu'on a judiciarisé les problèmes de santé mentale et donc on a fait que les policiers interviennent de plus en plus dans des cas, parce que là, c'est le personnel de la maison, de la ressource, de la santé et des services sociaux qui a appelé la police parce qu'eux-mêmes ne voulaient pas, ne pouvaient plus intervenir là, dans le cadre de la crise. Donc, ils pointaient vers ça. Fait que c'est quand même quelque chose de particulier. Là. Quand tu te trouves à être d'accord avec Jean-Jacques Sanson, là, c'est parce qu'il y a un consensus très large dans la société. C'est assez frappant. La technologie est revenue?
Oui, la technologie m'a dit bonjour.
La technologie t'a dit bonjour.
Il nous dit qu'on peut passer à une pièce violente de Tagada Jones. Le temps de nous installer pour l'entrevue.
Oui, alors on va voir une entrevue tout de suite après cette interruption agressive de notre émission.
Oui, messieurs, on va entendre Pavillon Noir de Tagada Jones.
Au retour sur Voix de Fait, vous avez une entrevue avec la cellule de guérilla jardinière de Limoilou.
Yeah.
M'entretenir avec des gens qui font du jardinage. La particularité de leur jardinage, c'est qu'ils le font sur un terrain vacant qui est situé au coin de la 3e rue de la 3e avenue. Peut-être avez-vous remarqué que cette ancienne station-service a été réaménagée durant l'été. Il y a du verre qui est dans des tiroirs, il y a des pierres qui ont été réaménagées. Et j'ai voulu en savoir plus, vu que c'est à côté de chez moi, je trouve ça sympathique. Et j'ai fini par trouver qui faisait ça. Bonjour!
Salut!
À qui ai-je l'affaire?
Ben moi, c'est Jean-Philippe.
Bonjour, Jean-Philippe.
Nicolas.
Je m'appelle Geneviève.
Et moi, c'est Mathieu.
Donc, Mathieu, Geneviève, Jean-Philippe. Donc, voilà. Ben, comment tout ça a commencé? On parle d'une ancienne station de service au coin de la 3e avenue, de la 3e rue, Petro-Canada désaffecté. Maintenant, c'est complètement bulldozé, remblayé... de garnottes avec des blocs de béton, c'était horriblement laid. Et là, tout d'un coup, ben là, c'est moins laid. Qu'est-ce qui s'est passé?
Ben, on était tannés. On était tannés qu'à la porte de l'une des portes de Limoilou, finalement, il y a un si laid terrain qui nous accueille à chaque fois qu'on pénètre dans le quartier. Puis, en fait, c'est tout simplement le souci d'embellir ces espaces abandonnés dans nos quartiers. C'était un peu ça.
En fait, on s'en est parlé entre amis, puis on a tous été d'accord avec l'idée d'aller là, puis de changer un petit peu la place.
Puis ils se sont demandé la permission?
Pas tout à fait. En fait, c'était un peu une des bases de l'idée de s'autoriser de le faire et de ne pas attendre. En fait, ça fait plusieurs années, je ne sais pas exactement combien d'années, là, mais au moins 3 ans que ce terrain-là est abandonné, puis qu'il ne se passe absolument rien dessus. Puis ben, c'était de s'autoriser... nous-mêmes, d'aller là, puis d'embellir la place.
Vous êtes réapproprié la station-service.
Exactement.
En fait, c'est un des éléments aussi qu'on questionne depuis le début de l'aventure, là, le fait qu'on puisse posséder un terrain, le laisser complètement à l'abandon dans un quartier, payer des pinottes de taxes foncières depuis un siège social là, en Ontario. Donc, c'est ce qu'on questionnait dès le début. On sentait qu'il nous appartenait plus à nous qui passons devant tous les jours qu'à ce propriétaire-là qui le laisse en spéculation, sait-on.
Donc, un beau matin, vous vous êtes levé et vous avez dit « ça va faire ». Comment ça s'est passé?
Ben, ça s'est passé de manière très spontanée. En fait, on était différentes personnes qui étaient intéressées par le mouvement de la guérilla jardinière. Donc, des initiatives de ce type-là qui sont attachées à différentes revendications là, selon les cas, mais donc ça faisait un bout de temps qu'on s'en parlait, qu'on s'informait là-dessus, puis on a eu envie de le faire. Donc ça a été super spontané, on s'est tout simplement donné rendez-vous avec des pelles, la terre, des plantes. La plupart de ces choses-là nous avaient été données, puis on s'est lancé.
Est-ce que ça a suscité des réactions, votre opération de jardinage citoyen?
Ben, une réaction bien directe qu'on a pu observer, c'est celle des voisins puis des passants. C'est quand même un coin de rue assez passant, mine de rien. Donc, la réaction était super favorable. La plupart des gens, soit se sont carrément mis à nous aider ou nous ont remercié ou bien nous ont encouragé à continuer, nous ont demandé de les contacter pour d'autres activités. Mmh. Fait qu'au niveau de la réaction des résidents du secteur, là, c'est vraiment bien. Au niveau de la réaction du propriétaire, ben, il n'y en a pas eu pendant un bon bout de temps. Puis finalement, un matin, en passant devant le site, on s'est rendu compte qu'il y a entre qu'un entrepreneur est en train de nettoyer le site complètement, de déraciner toutes nos plantes, d'enlever toutes nos installations. Donc ça a été la seule réaction qu'on a eue pour l'instant, puis on y est retourné finalement pour dire qu'on allait continuer quand même.
J'aimerais ça que vous reveniez sur la réaction du proprio. Là. Il parlait de main morte, là. Il s'est pas juste pointé là avec deux ou trois jardiniers pour éradiquer des plantes. Là.
C'est ça. En fait, le propriétaire nommé, c'est encore, pas pour le nommer personnellement, mais c'est encore Petro-Canada qui est propriétaire, donc ils sont situés en Ontario, si je me souviens bien. Puis, c'est ça, non, ils ont carrément envoyé un bulldozer, puis des ouvriers pour ces quelques plantes. Là, on n'avait pas construit d'installation ni rien, c'était quelques plantes de la terre, puis ça arrivait là avec le bulldozer. C'était plutôt...
Comment vous avez réagi quand vous avez vu un bulldozer dans votre jardin?
En fait, je pense qu'on s'attendait un peu à ce qu'à un moment donné, ça soit délogé, mais c'était un peu excessif. Ça aurait pu être fait autrement.
Ça a quand même suscité l'envie vraiment d'y retourner et puis de se réenraciner encore plus dans ce terrain-là. Il y a quand même des aspects positifs à ça. Du coup, ça l'a quand même rendu visible à la population qui pouvait passer par là. C'est le genre d'action qui n'est pas tolérée par un propriétaire qui maintient sa propriété dans le quartier. Donc, si on veut regarder les aspects positifs, en plus d'envoyer une petite facture à Petro-Canada pour ce que ça leur a coûté de nous déloger une première fois. Là.
Donc, vous êtes retourné?
Ouais, je pense que même, je dirais que ça nous a fouetté. Il y a personne qui a été découragé par ça. On a eu envie vraiment, avant l'automne, de poser un dernier geste, puis de semer pour le printemps prochain. On a fait une petite action avec Bulbe et Musique vendredi il y a quelques semaines. Et c'est vraiment intéressant parce que c'est vraiment facile de dire pour ce type d'action-là. Plusieurs gens ici qui mobilisent des gens pour toutes sortes de causes, mais celle-là, c'est vraiment une petite chaîne de courriel, puis il y a 20-25 personnes qui sortent puis qui viennent nous aider. Donc c'est vraiment encourageant de voir ça, puis on a l'intention de continuer l'année prochaine aussi. Là.
Je crois que vous êtes installé de façon un peu plus permanente sur place, c'est ça? Tantôt, tu parlais de stencil et...
Oui, ben c'est une réflexion qui est née aussi en se disant, bon, là, on s'est fait déloger une première fois et tout ça, mais l'action n'avait jamais été signée comme telle. Il n'y avait pas d'idée qui était donnée au jardin. Puis comme c'est encore très large et très... tout ce que ce coin de rue-là peut devenir... On s'est rassemblés sous le thème « Imagine un jardin ici » et c'est effectivement ce qui a été peint sur les blocs de béton là, avec des fleurs aussi là, qui embellissent encore plus parce que ce qu'on a planté la dernière fois, c'est pas des plantes, mais c'est plutôt des bulbes. Donc, ils vont dormir tout l'hiver puis qu'ils vont nous réveiller au printemps pour continuer de plus belle.
Et actuellement, si les gens y passent, est-ce qu'ils voient quelque chose ou...
Ben, si les gens passent actuellement au coin de la 3 puis de la 3, voilà, il y a quelques roches qui ont été placées, des petites sculptures finalement, des genres de Inukshuk, puis... On a fait finalement un cercle au centre là, avec quelques plantes. On voit pas beaucoup de plantes en tant que telles, mais on voit qu'il y a quelque chose qui est là puis qui est peut-être en gestation.
C'est intéressant parce que dans cette deuxième vague-là aussi, on s'est posé des questions sur l'apparence du lieu. La première fois, comme on l'a dit, on l'avait fait très spontanément. Puis on avait utilisé beaucoup de choses qu'on avait trouvées dans les ruelles autour comme récipients, que ce soit des tiroirs.
Dieu sait qu'on en trouve des choses dans les ruelles autour.
sont généreuses. Il y avait même une toilette qui a causé quelques réactions plus ou moins. On s'est posé vraiment des questions aussi en se disant, bon, si on veut que le projet soit accepté puis mobilisant pour les gens autour, surtout les gens qui sont voisins immédiats puis qui le voient constamment, ben il faut avoir un souci d'un esthétique. Mais en même temps, on ne veut pas nécessairement avoir une esthétique comme celui des plates-bandes municipales. On veut laisser place à la créativité, à l'originalité, frapper l'imaginaire des gens. Donc, il y a eu tout un échange autour de ça, puis ça a donné ce que vous pouvez voir en ce moment au coin de la 3 puis de la 3. Mais c'est un début, on veut y aller plus largement, mais on a commencé par ça cet automne.
Et moi, ça m'amène deux questions. Une bête, parce que, bon, c'est une façon dont on dit que c'est contaminé, ces sites-là. Ça pousse?
Oui, bien, c'est sûr que le sol qui a été laissé là...
C'est la roche.
Oui, c'est ça. Il a été vidé, une excavation, puis après ça, rempli. C'est pour ça qu'on a amené beaucoup, beaucoup de terre. On l'a amendé aussi en compost, et puis on essaie de retenir cette précieuse terre-là avec des roches. On a le souci aussi de ne pas semer, bien, pas d'installer des plantes comestibles, bien que le coin est tout à fait potentiel là, pour la culture comestible. Mais pour l'instant, c'est plutôt ornemental. On a quand même fait des expérimentations, c'est justement, parmi les matériaux qu'on a pu retrouver dans les rebuts du quartier, une piscine pour enfants a donné lieu à un petit jardinet alimentaire. Mais sinon, c'est ça, c'est sûr que pour asseoir des belles grosses vivaces dans un terrain comme ça, ça prend là, de la terre qu'on amène, ce qu'on a fait. Là.
Tu parlais de le faire accepter par les gens autour. Est-ce qu'il y a une volonté de le pérenniser ou c'est la beauté de la... C'est spontané et puis ben, ça dure, c'est des éphémères dans le fond.
Ben, au niveau de où on va amener le jardin, c'est encore en discussion, c'est encore en chantier, mais effectivement, on aimerait ça impliquer les gens. On s'est dit que oui, ce lieu-là nous dérangeait tel qu'il était, puis on avait envie de le transformer, mais qu'on pouvait pas le faire non plus en faisant fi des gens qui vivent aux alentours. Donc oui, effectivement, probablement au printemps, on aimerait faire un événement, plusieurs événements où on inviterait les voisins à passer, puis à mettre la main à la pâte ou à faire savoir là, comment ils voient le site. Là.
Puis, que ce soit permanent ou pas, en fait, nous autres, on aime ça jardiner. Donc, si c'est permanent, ben, tant mieux. Puis, si c'est, ça se fait détruire, ben, on recommence.
Donc, ben, maintenant, là, c'est un jardin. C'est le fun de l'été. On est rendu à l'automne. C'est quoi les suites qui s'en viennent par rapport à ça? Est-ce qu'il y en a des suites?
Ben, il va en avoir des suites, en fait. On a le goût, on a tous le goût qu'il aille. Pour cet hiver, ben, c'est sûr qu'on ne peut pas jardiner l'hiver. S'il y a des gens qui ont des idées à faire des trucs sur ce lieu-là, cet hiver, ben, c'est génial. On invite les gens à s'empower, si je peux utiliser ce mot-là. Puis, sinon, ben, on a nos plantes qui devraient pousser et devenir des fleurs au printemps, puis nous redonner l'envie de jardiner cet été. Puis, on lance un appel aux gens par rapport à ça.
Il y a eu quelques idées qui ont été lancées lors de la dernière séance de jardinage où a vraiment été réaffirmé justement le désir de poursuivre l'été prochain. Puis des idées comme, par exemple, de penser à un certain ameublement de parc qui pourrait être construit pendant la saison hivernale, par exemple, puis déployé directement au printemps quand nos bulbes vont fleurir. Fait que c'est le genre de choses qui... Puis l'hiver va peut-être aussi être fertile en ce qui a trait justement à développer un peu plus... Le discours collectif, est-ce qu'on va aussi se détailler des revendications? Ou pour ça, on s'entend quand même sur le fait que le fait d'y aller et de jardiner contient déjà une revendication qui est celle d'agir ici et maintenant dans son espace de vie. Maintenant, on peut aussi peut-être penser à d'autres types de revendications. Là.
Et puis ben, vous autres, là, sur les suites, là, vous l'avez fait ça tout un été. Bon, il y a eu des interventions du propriétaire, des voisins, la police qui est venue vous voir à quelques reprises. Là. Donc, qu'est-ce que vous en tirez comme bilan provisoire ou comme conclusion?
Ben, c'est que c'est un projet mobilisant. Je pense que ça, on l'a dit. Il y a beaucoup de gens qui sont prêts à sortir et à se mettre en action pour ça. Qu'il y a un paquet de revendications qu'on peut y attacher. Il y a un paquet de motivations qui poussent les gens à agir de cette manière. Donc, qu'on va avoir à se positionner puis à peut-être à ancrer ça dans une revendication précise. Mais en même temps, c'est toi qui parlais avant l'entrevue des 100 verrues de Québec qui ont été répertoriées par le journal Le Soleil. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'autres espaces.
Il y a de la place pour s'aimer.
Exactement. Puis chaque projet peut prendre sa forme particulière, puis c'est probablement ça qui le rendrait intéressant aussi. Là.
Mais c'est sûr que c'est un, à mon avis, en tout cas, c'est un définitif succès. Puis ben, les gens y ont participé, même sans avoir de revendications précises, puis sans avoir fait une grosse mob pour attirer les gens. Juste les gens qui passent, les gens sont venus aider à ça. On a eu suffisamment de monde.
Donc, c'est possible de se prendre en main et d'avoir du plaisir avec les terrains vacants qu'on a autour.
Je dirais même que c'est facile.
Peut-être qu'un défi qu'on a, c'est celui de penser à la manière dont on peut se concerter dans le voisinage pour faire un aménagement qui corresponde aux envies de tout le monde puis aux besoins de tout le monde qui sont là. Comment se consulter, comment s'organiser ensemble. Donc, quand on est en train de construire quelque chose à partir de rien, d'un terrain de gravelle, comment arriver à ce qu'on veut. Là.
Juste pour terminer, vous parliez tantôt off the record de lecture qui vous avait inspiré et tout. Si les gens ils veulent en savoir plus là, sur la guérilla jardinière, sur jardinage urbain, citoyen, je sais pas comment l'appeler, là. Mettons, là, qui serait intéressé, là, parce que là, bon, ils pourront pas aller mettre les mains dans la terre avant un petit bout, là, j'imagine. Est-ce que vous avez des références à suggérer, des trucs que vous vous allumez?
Ben, le site de base, c'est guerillagardening.com ou .org, donc .org, qui est un peu documenté, une des premières cellules, si on veut, qui est située en Angleterre. Puis, au niveau de développer l'agriculture urbaine, je pense que Geneviève, tu avais un bouquin.
Oui, Food Not Lands, donc la bouffe pas des pelouses. C'est un bouquin qui est d'ailleurs disponible à la librairie La Page Noire 265 d'Orchester, dans le rayon bibliothèque. Et puis il y a aussi un bouquin de Richard Reynolds, qui est celui qui alimente le site guerillagardening.org. Donc c'est un bouquin qui s'appelle On Guerilla Gardening.
Ce qui est des trucs en français.
Il y a malheureusement rien en français encore.
Très anglais,
Ben, certainement, là, vu l'enthousiasme qui naît un peu partout. Il y a à gauche et à droite sur le web quelques petites choses en français, mais majoritairement c'est en anglais.
Donc on cherche sur Google en parlant de guérilla jardinage.
Voilà.
Guérilla gardening, oui. Comme dans Garden, finalement.
Comme dans Garden.
C'est bon. Ben, merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez quelque chose que vous voulez absolument communiquer aux auditeurs et aux auditrices de Sequoia en terminant.
Ben, restez à l'affût parce que nous autres, on n'a pas fini de jardiner dans ces coins-là.
Puis si vous voulez aller voir le site, donc c'est situé au coin de la 3e avenue et de la 3e rue, donc en face de l'école de Lutry.
Attendez pas d'être invité pour investir la place. Allez-y des initiatives et multiplions les sorties là.
Et sur d'autres coins.
Ça va être un concours de sculpture de neige cet hiver.
Ça pourrait être une belle fois.
Ben voilà, merci beaucoup.
De tous les patrons inconsidérément. C'est ça qu'on va faire. C'est ça qu'on va faire.
T'écoutes, voix
de fait, bonhomme.
De retour dans le studio de Sequoia sur la côte d'Abraham, comme vous avez pu le constater, nous avons une machine à téléportation. Dans le studio, on passe du studio à Limoilou et de Limoilou au studio. Il y a aussi un espace, un trou spatio-temporel. Bref, évidemment, ça a été enregistré vendredi. J'avais oublié que je disais que j'étais dans une cuisine de Limoilou. Donc voilà, c'était l'entrevue avec...
Toi aussi, t'as été transporté aller-retour.
Oui, c'est ça. Moi aussi, wow. J'ai été transporté aller-retour. Donc voilà, c'était l'entrevue avec les trois camarades qui font de la guérilla jardinière. Évidemment, ils sont plus que ça. Et dans le lot des gens autour, il y a des artistes qui font des raps.
Ouais,
il y a Justin. Puis là, on va essayer quelque chose, OK? À Sequoia, à Voix de Fée, on va voir notre première prestation live, on the spot, techno-humaine, radio-diffusée. Voilà. Alors, on a un beat.
Il y a un beat.
Ça, t'as écrit ça récemment, toi, je pense. Hein?
Ah ouais.
Spécifiquement pour le jardin de la 3e.
Spécifiquement pour ça, pour revendiquer en fait ce terrain-là un peu. Puis ça m'est venu tout juste après avoir participé à cette...
Tout juste après avoir mis les mains à la plante.
Avoir mis les mains à la pâte.
Moi, je pars ça quand tu veux.
Vas-y. Imagine un jardin, ici ou là-bas. 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 Des reflets du ciel gris qui viennent choir comme des dépotoirs sur ce terrain vague, inoccupé et complètement désenchanté. Une zone désertique, abandonnée, qui crée un grand damier dans ce que je nomme mon quartier. Ouais. Ce qui est atterri ici, c'est la bombe de l'exploitation, la tombe de mon hood et de sa population. Une ancienne station-service au service du vice des bazous, polluant l'air et la terre de ce coin de rue qui m'est si cher. Ensuite,
La baisse des profits, la concurrence hystérique ont fait déserter les pompes. Ces funèbres trompes nous giclent noir le sang mort de la terre. Et y en a marre de buter mon regard sur des terrains vagues, inoccupés, abandonnés, laissés au désespoir par des proprios, tous et toutes des pecnos vivant à Montréal ou Toronto. Il se fout pas mal de laisser mon quartier couvert de gravier ou de béton armé tels des paysages atrophiés. Pour eux, la beauté cède sa place à l'inutilité d'un espace muré dans le silence, chut, solitaire des réverbères. Et je suis scandalisé de voir mon quartier s'enliser dans un paysage dénudé de toute beauté et d'humanité. Alors ça me dérange de retrousser mes manches, de semer un jardin urbain à devenir. On nous le cédera, 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 coin de la 3 pis de la 3.
Donc, c'est. On nous le cédera. Revendiquer l'expropriation, finalement.
Tout à fait.
Tout à fait. Hey, merci, Justin.
Ça fait plaisir. J'espère que je ne vous ai pas trop cassé les oreilles avec tout ça.
Hey, ça semble avoir bien sonné, oui.
Moi, je pense que ça a bien, moi, je pense que ça a bien sorti. Il va falloir que je réécoute l'enregistrement sur Radio for All. Puis, oh, ou la rediffusion demain.
La rediffusion
parce qu'on
demain.
Est toujours, on est diffusé le mercredi à 8h.
Mais comment tu vas chercher la Radio for All? Hein?
Ben, c'est justement. D'abord, il y a la rediffusion hein, sur les ondes FM, MF. MF, qu'il faut dire maintenant, c'est vrai. Hein, faut pas dire FM. Maudit. Pourtant, on le dit. Sur les ondes FM, il y a une rediffusion le jeudi à 14h. Et sur la bande passante du web, on est ben, justement Radio for All, c'est Radio en Info. Qui est la radio anarchiste. C'est surtout anglophone, disons-le, mais il y a quand même quelques espaces francophones, dont Voix de fait. Et puis, puis évidemment, bon, on peut l'écouter là, de plusieurs endroits, et nous, on conseille fortement, pour pas se perdre, parce que c'est grand et c'est vaste, le web, on conseille fortement de s'arrimer au blog de Voix de fait. Oui, avec un X et un S.blogspot.com.
Ça a été long, on a fini par l'avoir.
On a fini par l'avoir. Alors voilà, on pourra réentendre Justin et l'entrevue aussi, puis toute l'émission. Ben, merci beaucoup d'être passé à notre micro. Puis nous...
On change de registre complètement.
Oui!
La faute à une spéciale demande... où on dit demande spéciale?
Une demande spéciale, je crois.
Ouais. Oui, j'ai eu une demande spéciale cette semaine et on m'a harcelé, fait que... Ça va dans de la oeil française pour toi, Nicolas. Avec
non.
Hors Contrôle qui nous chante Ma Classe.
Ok, ben c'est pas Spiro, au moins c'est pas Barricada.
Ah non, le.
Retour à Voix de Fée, l'émission du collectif Anarchiste la Nuit. On tombe dans un bloc de travail. Puis, Jenny, ben, tu le travail, ça tue, hein?
Oui, ben, c'est ça. C'est depuis le début de l'année 2009, c'est 104 travailleurs qui ont perdu la vie, qui sont morts au Québec à suite d'un accident de travail, d'une maladie professionnelle, tout ça. C'est une statistique alarmante qui incite la centrale des syndicats nationaux à sensibiliser en plus ses membres à l'urgence de passer à l'action en discutant de la prévention. Puis, selon cette statistique de la CCC, bon, c'est ça, l'exposition à des substances ou à un environnement nocif aurait causé 61 décès cette année. Du côté du secteur de la construction, on parle de 25 morts, puis les accidents de transport, ça a tué 11 personnes.
Ouf!
Puis depuis 2005, on parle de plus de 200 personnes perdent la vie annuellement en raison d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, puis des milliers d'autres qui se blessent au travail.
Oui, puis il n'y a rien qui s'améliore au niveau judiciaire. Maintenant, quand on se blesse puis qu'on fait un rapport, la CCST conteste pratiquement systématiquement le rapport. Mettons, tu travailles sur un chantier, tu reçois de quoi sur l'épaule, tu es blessé, tu envoies ton rapport et tes demandes d'indemnisation, conteste.
Ça c'est sûr, une contestation systématique.
Puis il y a aussi une espèce de privatisation de la sécurité qui se fait sur la construction, que le monde n'y connaisse pas vraiment, mais si tu as une bonne fiche à la CCST, une bonne manière pour un entrepreneur de baisser ses coûts de production, c'est d'aller avec des mutuelles privées. Mais pour accéder aux mutuelles privées, il faut que tu ailles une bonne fiche, que la CCST te dise « Ok, c'est beau, tu peux aller dans moins cher ». Mais ça laisse la place à des blessures pas revendiquées, des accidents de travail, tu sais, des blessures qui s'accumulent, des expositions qui s'accumulent, puis à la fin, t'arrives avec une maladie professionnelle, puis la CCST qui te dit, comment ça, t'as jamais rien eu de ta vie, toi?
Ben, il faut quand même dire aussi, dans les dernières années, c'est particulièrement élevé, là, dans la mesure où, effectivement, la moyenne de 200 est là, sauf que on a topé jusqu'à 300 quelques, là, il y a deux ou trois ans. Et cette année-là, ben, c'est ça, chaque année, il y a comme une journée nationale, internationale, en fait, pour les morts au travail. Puis, il y a la semaine de la prévention. Puis, pourquoi ça sort actuellement? C'est à cause de la semaine de la prévention, santé et sécurité au travail. C'est le travail des syndicats, mais il va y avoir aussi une journée de prévention. Il va y avoir aussi une journée, en fait, pour les morts au travail. Et tu dis ça recule au niveau judiciaire. Oui, c'est sûr, la CSST recule et tout. Sauf que il y a eu une avancée récemment, puis là, on est en train d'essayer de voir là, comment est-ce qu'on va réussir à dealer avec ça. Mais il est maintenant possible de poursuivre un patron pour négligence criminelle.
Oui, mais là-dessus, même les syndicats, qu'est-ce qu'ils vont dire? C'est on va pas mettre un patron sur la paille pour un gars mort pour slacker 20 autres personnes.
Ouais, il y a quand même l'FTQ qui l'a fait une couple de fois. Pour faire des exemples.
Il essaye de faire des exemples, mais ce qu'ils font, c'est que ce qu'ils demandent en cours, c'est quelque chose pour faire en sorte que l'employeur ne perde pas sa compagnie. Mm. Ils veulent comme une bonne gifle, mais c'est tout. Ouais. Il se dit, si on envoie le propriétaire, opérateur de la compagnie en prison, mais il n'y en a plus de compagnie, puis on a 20 gars sur le chômage. Fait que là, on se ramasse avec les syndicats qui se ramassent, tu sais, ils se ramassent devant leurs propres limites.
Ben, en fait, on se retrouve, il y a quelques années, la FTQ avait sorti sur le fait que l'amende était plus grosse pour braconner un orignal que pour tuer un travailleur. C'est quand même hot. Mais c'est aussi autre chose. C'est bon, on peut bien parler là, des sanctions là, pénales qu'il peut y avoir. Puis, des fois, il y en a. Ça dépend toujours là, du syndicat local puis du qu'est-ce qui s'est passé. Mais l'autre chose aussi qu'il faut noter, comme le soulignait ben justement la FTQ à ce moment-là, il y a actuellement moins d'inspecteurs en santé sécurité au travail que de flics qui font la circulation à Montréal. Donc, c'est dire, là.
Mais oui, puis si vous travaillez sur des chantiers résidentiels, vous ne les verrez jamais de votre vie.
Ouais, non, jamais. C'est ça, là. C'est, ça n'a pas de bon sens. Donc, il faut.
Ils marchent sur dénonciation maintenant parce qu'ils n'ont pas le temps, puis ils n'ont pas assez d'effectifs pour chercher. Puis, mieux encore, il faut qu'ils se fient au rapport de sécurité émis par les employeurs.
Mais, comme tout le monde le sait, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de fonctionnaires et beaucoup trop dans le gras. Et c'est d'ailleurs, c'est ça, c'est le lien entre les deux sujets, en fait.
Ouais, c'est ça.
Il y a trop de fonctionnaires, ça prend des. Oh, excuse-moi.
J'en ai pas fini.
Ah, t'en avais un autre, toi?
Ah oui.
Excuse-moi.
C'est une vingtaine d'employés de la mine du Sigma Lamar qui se situe à Val-d'Or, en Abitibi, qui manifestent depuis lundi matin devant l'entrée de la mine, ça, pour empêcher les entrepreneurs d'accéder au site. Parce que c'est... Quand est-ce que ça a fermé? C'est ça, c'est... Les employés ont été mis à pied. Dans le fond, la mine a fermé. Ça, c'est 140 employés ont été mis à pied juillet 2008. Leur employeur, l'entreprise Century Mining, leur doit $1 million en salaire. Puis ils doivent aussi près de $250 000 à vivre de Val-d'Or pour défaut de paiement foncier.
Puis là, ils veulent pas qu'ils sortent les affaires de là, finalement.
Ouais, c'est ça, parce que les autres s'insurgent de voir des travaux d'exploration sur le site, tandis que les autres y attendent leur salaire depuis 15 mois. Ils réclament leur salaire, leur fonds d'épargne, leur cotisation syndicale, leurs vacances, puis leur préavis de licenciement.
Le patron a utilisé la formule RAND pour se foutre ça dans ses poches. Parce que là, la cotisation est ramassée par l'employeur, puis déversée au syndicat. Mmh. Mais si l'employeur regarde ça dans ses poches...
Ouais, ben là, il y a des... Encore là, il va y avoir des changements législatifs à ce sujet.
Mais il serait temps.
Ouais, mais jusqu'à récemment, les travailleurs étaient les derniers payés là, quand une entreprise faisait faillite. Là. Mais c'est en train de changer. Ceci dit, ça reste le capitalisme.
Hein? Mais qu'est-ce qu'ils disent? Ce que le secrétaire du syndicat s'est envoyé de la mine, Michel Saint-Yves, il dit, ils ont dit qu'on serait payé le 23, mais l'histoire revient toujours la même chose. On était censé payer le 9. Le 9, ils disent que ça doit être le 16 octobre. Le 14 octobre, ils disent que c'était pour le 23. Puis là, c'est rendu que là, ils croient plus. Quoi. On est rendu à bloquer parce qu'ils veulent pas payer. C'est le dernier moyen qu'on trouvait.
En France, ils ont une solution. Séquestrer.
Ouais, ben à un moment donné, tu sais, je veux dire, regarde, tu prends les moyens à ta disposition. Là. Tu fais ce que tu veux.
Le cadre qui passe.
C'est ça.
Ben pour continuer avec le lien, dans le fond, qu'on avait commencé à faire tout à l'heure, on sait que justement...
La mort, la santé... Les fonctionnaires en tout surnombre, c'est ça.
En fait, c'est que depuis, dans le fond, le mois de mai dernier, il y a un front commun des grandes centrales syndicales au Québec pour les négociations dans le secteur public. On se rappelle que la dernière fois, il y avait eu un décret qui avait été imposé, la loi 143, dans le fond, qui avait dit, ça, c'est vos conditions pour les 4 prochaines années, rentrez, sinon vous allez y avoir des grosses amendes et tout. Tout le monde est rentré, bien sûr, pas content et vraiment obligé, parce que en fait, là, dans la loi, en fait, ça crée les syndicats à terre et tout, si jamais ils faisaient quoi que ce soit comme moyen de pression. Désolé. Sauf que là, on revient dans les négociations, on revient avec un front commun, puis en fait, les demandes sont sur 3 ans, même pas 3 ans, en fait. Puis, ils reviennent à 11,25% sur ces 3 années-là, avec d'autres aménagements là, divers par rapport aux conditions de travail. Mais en gros, mettons, on va s'attarder aux conditions salariales parce que c'est un peu ça, mon point de comparaison ce soir. Là, c'est que ce soir et cet après-midi, les deux en même temps.
Toi aussi, t'as le don d'ubiquité.
Oui, c'est ça. Fait que non, c'est ça, 11,25% sur 3 ans. Sauf que là, on s'entend qu'on parle de gens, mettons, entre salaire de quoi, infirmière à comme, mettons, 80 000 $ par année jusqu'à comme entretien ménager à.
80 000 par année, là, c'est le top du, de l'échelle.
Le top de l'échelle sans temps supplémentaire. Le top de l'échelle universitaire, bachelière et tout, là, mais comme c'est ça. Puis, sûrement qu'il y a quelques fonctionnaires aussi qui sont dans le range, là, qui sont sur le bord d'être cadre et qui atteignent pas mal, proche ce salaire-là. Mais en gros, on parle de ce range de salaire-là. Donc, 11,25% de ces salaires-là. Faut dire aussi que dans l'aménagement, il y a, dans la demande syndicale, il y a un aménagement qui fait que les plus bas salariés auraient une... en fait, il y aurait un ajout d'environ 50 cents, un ajout entre 45 et 50 cents sur chaque année, qui serait statutaire pour toutes les classes, puis dépendant de l'échelon, en fait, du niveau de salaire, justement, il y aurait un pourcentage qui s'ajouterait. Mais le pourcentage serait de moins en moins grand plus le salaire est élevé parce qu'il y a eu des
ajustements. Un mécanisme pour réduire les échelles.
Exactement, réduire les différences entre les salaires parce que, mettons, si on prend la différence entre une hausse de 2% sur 30 000, ça monte pas vite, mais une hausse de 2% sur 70 000, ça monte comme plus que deux fois plus vite. Il y a ça dans le mécanisme. Donc, question un peu de parité, question un peu de réduire un peu les écarts. Excusez-moi. Donc, en gros, ça, c'est le front commun. Sauf que là, parallèlement à ça, on sait que les médecins, ça fait plusieurs années qu'ils se plaignent, que la moyenne canadienne, dans le fond, ils la rattrapaient pas, puis là, blablabla, ils étaient les plus sous-payés de tout le Canada. Sous-payés, on s'entend à 250 000 $. On parle des médecins spécialistes là, qui se sont battus il y a quelques années pour
réussir. Docteur Barrette.
Ouais, Docteur Barrette, pour comme réussir à avoir leur fameux rattrapage par rapport aux médecins canadiens. Puis là, ça a été réglé en 2006. En fond, 32,5%, un rattrapage de 32,5% sur 5-6 ans. Donc, dans le fond, ça finit en 2012, ce rattrapage-là. Puis, donc, ça leur donne, grosso modo, là, une augmentation de 82 900 $ genre sur la période. Donc, on dit le salaire comme de la personne maximum qu'on a dit dans le front commun, genre sur la période. C'est quand même une différence d'échelle légèrement appréciable. Mais là, maintenant, c'est le tour des omnipraticiens. Sauf qu'eux autres, ils se basent sur la question de...
Ça, c'est les médecins généralistes,
les médecins de famille. Médecins de famille, c'est ça. Sauf qu'eux autres, là, ils demandent une augmentation de 35%. En disant, ouais, mais regardez, là, il n'y a plus personne qui veut venir faire ce job-là parce que les médecins spécialistes, ils ont bien trop un gros écart salarial avec nous autres. Puis là, faut qu'on rétablisse les choses si on veut avoir encore de bons médecins de famille pour nous à l'avenir. Mais ça, ce 35%-là, ça donne une augmentation, grosso modo, de 68 000 $ sur la période, encore une fois. Parce que les autres, c'est sur... je pense que c'est sur 4 ans, en tout cas. Mais bref, 35% sur 4 ans. Puis on parle d'une augmentation de 68 000 $. Qui vous pensez là-dedans qui va avoir son augmentation dans le front commun et dans les médecins omnipraticiens?
J'ai comme l'impression qu'il y a moins de médecins omnipraticiens que d'employés dans le front commun.
Oui, effectivement. Sauf qu'il faut se poser la question aussi, qu'est-ce qu'ils vont faire les médecins sans les personnes qui les soutiennent? T'sais, parce qu'on sait que dans le front commun, il y a une bonne part de ces personnes-là qui travaillent dans le domaine de la santé. Puis, je veux dire, à la base, ces personnes-là sont en manque aussi. Là. Je veux dire, on s'en cachera pas. C'est pas tout le monde qui veulent être préposé aux bénéficiaires, qui veulent être commis dans les hôpitaux, les gens qui font la paperasse, genre secrétaire, etc. Là, tous ces travailleurs de soutien-là, travailleuses de soutien-là,
qui sont précaires, qui n'ont pas la sécurité d'emploi.
Effectivement, la sécurité d'emploi, c'est...
Qui sont en temps partiel.
Sur appel, en demande de temps supplémentaire de manière récurrente. On parle beaucoup des infirmières. Il y a eu beaucoup de rattrapages.
Par année maximum.
Ouais, c'est ça, exactement. C'est que on parle de ces gens-là, puis on parle de ces gens-là qui, là, comme... Non, ça va catastropher la situation budgétaire du Québec. On ne pourra pas avoir cette augmentation-là. Ça sera impossible. Tandis que, effectivement, les omnipraticiens, je veux dire, ils l'ont donné aux médecins spécialistes. Je veux dire, ils vont le donner aux médecins praticiens. Là, c'est une question de temps. Là. Il n'y a juste aucune.
On va essayer de faire ça de façon subtile et discrète.
Ouais, c'est ça. Là, genre, quand ça va moins paraître, là, probablement avant le temps des fêtes, là, quelque chose de même, là, ou après. Là, question que le monde se soit rencontré. Mais en tout cas, bref, c'est à bien y penser. Là, question de comme équité en général. Là, je veux dire. Il y a quelque chose là qui accroche, pour le moins.
Effectivement. Avant de se quitter, ça faisait le tour de ton...
Oui, oui.
Avant de se quitter, on n'a pas parlé d'élections municipales.
Oh non.
Hey, je suis en train de tomber en bas de ma chaise.
Cette semaine, on n'a pas parlé d'élections municipales, mais là, on va en parler pendant les 5-7 minutes qui restent. Ça va être vraiment...
6 et demi,
ça va être short. Bon, on va dire deux choses. D'abord, il s'est passé... en fait, il y a deux affaires qui se passent et qui nous montrent à quel point, en fait, on est dans un cul-de-sac complet à Québec en ce moment, au niveau politique. Et c'est pas... Ben, c'est généralisé à l'ensemble de la province, là. On le sait, mais à Québec, c'est particulier un peu, là. Nous, on n'a même pas de petit projet Montréal qui a des chances d'avoir des élus. Quoique, bon, le défi vert, il paraît que, mais en tourne
pour nos deux,
là. Il paraît que peut-être qu'il y aurait des chances dans 2 ou 3 districts. J'ai comme des doutes, là. Mais bon, donc, première chose qui s'est passée récemment, je sais pas si vous avez vu, il y a le dossier... Ben, les dossiers du centre-ville, en fait, sont très présents dans les médias depuis un certain temps. Et en fait, quand on parle des batailles de district, on parle rarement des batailles de district du nord et de l'ouest de la ville. On parle essentiellement des batailles de district du centre. Et une des batailles qui prend énormément de place, c'est toute la bataille autour du district des Faubourgs et Montcalm, Vieux-Québec, Sillery. Donc ça c'est des places qui sont intensément présentes. Et puis ben c'est ça, je dans les quartiers centraux, il y a des choses qui se passent et ça devient complètement hallucinant. On l'a vu encore cette semaine, l'équipe du maire, en fait, qui a annoncé le centre Monseigneur Marcoux, ils ont annoncé sa démolition et son déménagement à Destimoville pour créer un centre beaucoup plus important,
oui,
pour mieux répondre aux besoins.
Des quartiers centraux.
Ben, pour eux autres, oui, ça reste...
Ben oui.
Il présente comme ça.
On avait détiré les Moelleux jusqu'à Sainte-Anne-de-Beaupré.
Oui, oui, oui. Mais en fait, bref, il se retrouve dans une situation où il veut. Mais c'est parce que celle-là, il est emblématique, mais il veut le faire aussi ailleurs. Sauf que, bref, toujours est-il qu'ils se sont organisés pour annoncer quelque chose sur un terrain qui ne leur appartient pas. Et ça fait 5 ans que.
Est-ce que le propriétaire, s'il veut vendre, il peut être accusé de délit d'initié parce qu'il y a des informations privilégiées.
Ça fait 5 ans que la paroisse demande à vendre le terrain à la ville pour qu'il puisse faire quelque chose avec ça. Ça vaut 1,5 million, ça coûterait 1 million décontaminé, donc 2,5 millions. Mais ils acceptaient finalement une demande de district sans s'être donné la peine d'aller les voir puis de leur soumettre le projet. Et il y en a plein d'affaires comme ça dans plein de centres communautaires, trucs qui sont annoncés en fait par l'équipe La Bombe.
Question démolition, La Bombe était montée au front pour démolir une aréna à Beauport, ultra bien positionnée, complètement publique. Finalement, quand quelqu'un s'est juste reviré et dire « T'es con, man », il a arrêté. Là. Il voulait, son projet, c'était « On démolit une organisation publique, toute la gestion, toute l'équipe. Pour mettre ça privé, ça coûte bien moins cher. » Mais puis, ça m'étonnerait même pas que bâtir à Destimoville, ça va finir par retomber privé.
Mais la même chose est arrivée, en fait, dans les Moelleux. Effectivement, avec le... Bouffard, c'est dans Saint-Sauveur. C'est lequel qui est sur la première avenue?
Le Rocamadour.
Le patron Rocamadour, oui, ouais, c'est ça. Où le patron, en fait, eux autres, ils se débattent depuis longtemps pour essayer d'avoir un agrandissement. Là, il y a eu des annonces, mais il n'y a rien de ficelé. Fait que c'est vraiment des dossiers qui se promènent comme ça. Et il y en a un autre aussi. Là, c'est facile de parler de La Bombe dans la mesure où Régis La Bombe occupe 90% de l'espace médiatique, sinon c'est plus.
Et officiellement 80%.
Ouais, mais
87. Okay, 87, ouais.
Quasiment 90. En tout cas, il occupe tout l'espace médiatique et il fait ce qu'il veut. Mais même ceux qui n'occupent pas full l'espace médiatique qui réussissent à se mettre le pied dans la bouche, et ça a été le cas notamment du renouveau municipal de Québec. On a parlé dans, il y a le dossier du patro Saint-Vincent-de-Paul qui revient souvent, l'ancien patro Saint-Vincent-de-Paul sur la côte d'Abraham, en fait l'espèce de ruine, là, la façade qui est debout, et l'équipe La Bombe s'est positionnée, les deux candidats d'équipe La Bombe sont positionnés pour une expropriation et construire de l'habitation là, plutôt qu'un hôtel, et donc voilà, le RMQ est finalement sorti sur la question, et deux fois plutôt qu'une. Il y a Jacques Jolicoeur qui est le candidat dans l'autre district, en fait pas dans le district des Faubourgs, lui il est dans le Vieux-Québec, Montcalm, qui s'est positionné pour le respect de la société de droit et contre l'expropriation. Il dit le propriétaire a des droits et c'est un promoteur, et ça n'a pas de bon sens d'arriver puis d'enlever un promoteur pour mettre un autre promoteur. Donc c'est positionné contre, il dit que c'est de l'improvisation totale. Et il y a eu un débat Forum citoyen à Radio-Canada cette semaine, en c'était, début de semaine.
C'était à l'Aquarium.
Ouais. Oui, c'était à l'Aquarium de Québec, et ça a été diffusé à la radio et à la télé, et il y a un des représentants du comité populaire Saint-Jean-Baptiste, qui est aussi quelqu'un qui vient des fois à l'émission ici, qui a réussi à poser une question sur le patro, sur l'expropriation. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'expropriation? Est-ce que vous êtes d'accord à faire du logement social une place publique là? Et la chef du RMQ a dit à la télévision qu'elle serait d'accord dans la mesure où il y avait un consensus dans le quartier, consensus qui impliquerait aussi le promoteur. Et elle a dénoncé l'improvisation de l'équipe La Bombe, qui, semble-t-il, ne fait que favoriser la spéculation là-dessus. Et il faut dire, le comité populaire Saint-Jean-Baptiste a vraiment fait son maximum depuis le début de la campagne pour amener ce dossier-là sur la place publique, pour essayer de faire des gains. Et très important, samedi prochain, il va y avoir une manifestation dans Saint-Jean-Baptiste. Il y a un rendez-vous à 13h sur le parvis de l'église Saint-Jean-Baptiste, et c'est justement pour amener les enjeux du centre-ville et mettre de l'avant les positions indépendamment des partis, pour que justement ils continuent de se faire des logements sociaux dans la Haute-Ville de Québec, mais aussi des espaces verts, puis une bataille contre la circulation de transit. Donc ça va être vraiment à noter, et on va essayer de marteler ce message-là, et d'enfoncer le clou. Jusqu'à maintenant, ils ont réussi quand même à s'imposer de façon intéressante dans la campagne. Probablement qu'on parle autant du comité populaire, finalement, que du RMQ, de certains indépendants. Mais bon, c'est un autre débat. J'étais à 40 secondes short.
Officiellement, la console t'a coupé le 10 secondes pour la rediffusion. On est jeudi à 14h.
Mais c'est pas grave.
Les privilégiés seront ceux et celles qui nous auront écoutés ce soir.
Qui nous auront écoutés ce soir. Non, on peut poursuivre aussi longtemps qu'on veut.
Hein, oui, l'émission d'après nous a décidé qu'elle abandonnait.
Oui, effectivement, voie de fait, c'est la dernière émission avant Morpheus, le mercredi soir maintenant. Mais n'empêche, on va...
on va quand même rester dans notre créneau d'une heure.
Oui. Sur ce, passez une agréable semaine sur les ondes de CIA 88.3 à Québec. Vous écoutez Voix de fait avec Nicolas.
Guillaume.
Jenny.
Et Farouk qui dit à son ordinateur, je te réserve un chien de ma chienne.